Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on prononce le mot, tout de suite, un parfum d'aventure qui flotte dans la pièce.
Shanghai était la seule ville du monde où l'on pouvait rentrer sans visa. Ce qui était une bénédiction pour les gens qui auraient eu du mal à l'avoir, soit pour des raisons douteuses, soit parce qu'ils étaient dans une situation malheureuse.
Pourquoi Shanghai fut-elle surnommée le Paris de l'Orient ?
Parce que quand la concession britannique s'est mélangée avec la concession américaine pour devenir la concession internationale, la concession française a pris un éclat plus directement français. Et que cette ville donnait le ton, par exemple dans le cinéma Cathay qui était avenue Joffre, et qui y est toujours d'ailleurs, eh bien on voyait les films de Tarzan avant Paris. C'est vous dire si c'était une ville chic.
Alors après le Paris de l'Orient, aujourd'hui c'est la New York de l'Asie. Ça veut dire que c'est maintenant les États-Unis qui dominent le monde.
Ça, c'est une vision tout à fait européenne. Car je suis sûr qu'un Shanghaïen détesterait cette appellation. Parce que quand on est à Shanghai, New York paraît vieillot. Les immeubles, les buildings, les gratte-ciels paraissent falots. Non, la vraie rivale de Shanghai, c'est Hong Kong.
Oui, tout à fait. Vous avez raison, New York, ça fait un peu vieillot. Shanghai, c'est quand même la plus cosmopolite des villes chinoises, aujourd'hui comme hier.
Shanghai a toujours été à part. Shanghai est l'étrave du paquebot Chine. Shanghai a toujours été à l'avance. Shanghai, ça veut dire Shanghai, aller vers la mer, aller vers l'étranger. Et Shanghai a toujours été number one. Ça a été la première ville de Chine à avoir un réseau d'électricité, à avoir un éclairage public, à avoir des tramways, à avoir des grands magasins. Et Shanghai, la reine des années 30, entend bien le redevenir la reine des années 2030.
Ouais, elle le sera. On parle souvent à Shanghai des concessions étrangères, et d'ailleurs on vient juste d'en parler, mais qu'est-ce qu'une concession finalement ? Je ne suis pas sûre que tout le monde le sache.
Zhujie, en chinois, les terres louées. Les concessions sont un des produits de la brutale rapacité des États européens au XIXe siècle. La guerre de l'opium s'est soldée par le fait que les Anglais ne voulaient pas que les Chinois mettent leur nez dans leur trafic d'opium. Et donc ils ont exigé d'avoir des terres dans lesquelles la loi chinoise ne s'appliquerait pas. Et ces terres ont été concédées par l'Empire chinois. Donc nous les avons appelées des concessions. Mais les Chinois les ont toujours appelées Zhujie, les terres louées, pour indiquer qu'elles avaient été extorquées par la force. Et c'est pour ça qu'elles furent rendues à Chiang Kai-shek en 1945, car il était quand même difficile de garder des terres acquises par la violence, par l'agression, dans un pays qui était un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale.
C'était donc un petit peu des terres colonisées.
Non. Non. Parce que des terres colonisées veulent dire qu'il y a l'emprise d'une culture étrangère à l'intérieur d'un pays. Alors que là, c'était des morceaux de France, des morceaux d'Europe qui étaient entourés de barbelés et qui échappaient à la loi chinoise, qui avait sa propre police, son propre conseil municipal, etc., etc. C'était des morceaux de France à l'étranger, et c'est pour ça, par exemple, lorsque les Japonais ont envahi les quartiers nord, militairement les quartiers nord de Shanghai, Chapei, eh bien, ils n'ont pas touché aux concessions, parce que il n'y avait pas de déclaration. La France avait été vaincue par les nazis, mais donc il y avait eu un armistice, Et donc, ils n'ont pas touché à la concession française et ils n'ont pénétré dans la concession anglo-américaine qu'après que le Pearl Harbor en décembre 1941.
Alors, c'est à Shanghai qu'est né en 1921 le Parti communiste chinois et que Sun Yat-sen vécut un temps. Est-ce que les jeunes Chinois visitent ces lieux de mémoire ?
Ah oui, il y a toujours du monde dans cette arrière-cour d'une filanderie de la concession française, dans laquelle effectivement en avril 1921 se sont réunis une quinzaine d'intellectuels progressistes. Il y avait dans le fond de la salle un grand type qui venait du Hunan. Il n'a pas beaucoup participé, mais comme il occupera une certaine place dans l'histoire par la suite, on dira qu'il a été un des membres fondateurs. En fait, il a porté le thé. Et c'est là qu'est le fait que ça... Alors, pourquoi ça s'est passé dans la concession française ? Parce que c'est là qu'on était le plus à l'abri de la police de Chiang Kai-shek, bien évidemment. Et donc, c'est là qu'est née la réaction schizophrénique des communistes vis-à-vis de Shanghai, qui était à la fois le berceau du Parti communiste chinois et le lit de la putain vendue aux Occidentaux.
Beau contraste. Il ne reste plus de traces du trafic de l'opium qui fit la richesse de la ville, mais il n'en demeure pas moins que Shanghai est aujourd'hui la capitale financière de la Chine et que l'argent y est toujours roi.
Albert Londres, qui ne mâchait pas ses mots, disait « À Shanghai, l'argent est la matière première et la matière dernière. »
Et rien n'a changé. Non. Vous fréquentez Shanghai depuis une bonne trentaine d'années. Et que vous inspire cette croissance exponentielle des gratte-ciels ?
Rien. Parce que cet aspect extérieur de Shanghai n'en donne pas toute la saveur. La qualité fondamentale de Shanghai, c'est que c'est une ville intelligente. Et ça, ça ne se voit aussi bien nulle part ailleurs en Chine. Alors bien sûr, il y a plus de 4000 buildings de plus de 40 étages. Bien sûr, une grue sur deux travaillant dans le monde est un Shanghai, bien sûr. Mais... cela n'est que l'écume de cette ville. Je trouve que l'intelligence de Shanghai, par exemple, c'est pas dans ses tours qu'on la voit. C'est dans ses boyaux, c'est dans le métro. Mais c'est formidable de se promener dans le métro à Shanghai, même quand on est un illettré, c'est-à-dire qu'on n'entrave que Pouic, à leur espèce de grabouillis avec lequel ils écrivent, on retrouve parfaitement son chemin. C'est indiqué là où il faut, comme il faut, avec des flèches sur le sol, avec des couleurs, et le plan de la ligne est marqué, et là où... Bref, on voudrait vraiment avoir ça. Je vous donne un seul détail de cette intelligence du métro shanghaïen. Dans le métro, dans tous les métros européens, il y a les rails au milieu et les quais de chaque côté. Ça oblige à faire deux quais, deux escalators, deux sorties. Non, en Shanghai, ils ont mis le quai au milieu et les rails de chaque côté, selon que l'on va vers le sud ou vers le nord.
Un esprit pratique, en tout cas.
Le pragmatisme chinois passé à la perfection de l'astuce shanghaïenne.
Alors, si vous deviez ouvrir votre carnet de voyage à Shanghai, vous nous emmèneriez où ?
Bien sûr, d'abord, sur le Bund. Parce que, quand même, les Anglais, qui savent parfaitement repérer les ports, avaient compris que l'intérêt de cette ville est qu'il y avait une rivière profonde, le Huangpu, un petit machin, ça fait même pas 50 km de long, mais ça fait 500 mètres de large, à 14 km de son embouchure seulement, et que cette embouchure, c'est celle qui donne dans le Yangtze. Donc avec Shanghai, vous aviez la tranquillité d'un port fluvial protégé des typhons, il y en a quand même une centaine par an dans la région, avec en même temps l'ouverture d'un port de haute mer. Donc le Bund, ça a été la richesse fondamentale de Shanghai. Il y a une légende qui court qui dit que ce n'était qu'un bourg de pêcheurs avant que les Occidentaux n'y arrivent. Pff, Biversé. C'était une ville murée. Et avoir des remparts, c'était avoir rang de sous-préfecture à l'époque des Ming. Ces remparts ont finalement été démolis pour des raisons d'hygiène en 1910. Et comme les remparts faisaient la limite entre la concession française et la concession chinoise, pour faire la nique aux Anglais, on a appelé la rue qui courait entre la ville chinoise et la concession française la rue des deux républiques. Donc, d'abord le Bund, et c'est là que va n'importe quel Chinois qui visite Shanghai. Et il faut dire qu'il s'y passe une chose tout à fait extraordinaire, parce que de chaque côté de ce fleuve, vous avez d'une part le diadème des magnifiques bâtiments des années 30 et qui montre le passé somptueux de Shanghai. Et vous tournez la tête de l'autre côté et vous avez les extraordinaires buildings de Pudong qui vous montrent le futur de cette ville qui entend reprendre son rang.
Alors, à part le Bund maintenant, on a fait le Bund du nord au sud, ou plutôt de l'est à l'ouest. Et...
Plutôt de l'est à l'ouest. Il y a un endroit qui est le même qu'il faut éviter. Il y avait au confluent de la rivière Suzhou et de Huangpu, de la rivière Huangpu, il y avait un jardin où les Anglais aimaient beaucoup venir voir la noria des bateaux qui exprimaient toute leur richesse. En plus, ils aimaient bien cet endroit parce qu'ils y étaient tranquilles. Il y avait, dit-on, sur la porte d'entrée, un écriteau marqué « Interdit aux chiens et aux Chinois ». On n'a jamais retrouvé cet écriteau, mais il décrit quand même l'ambiance. Et donc, quand Jiang Zemin, l'ancien maire de Shanghai, a réaménagé le Bund, il a construit dans cet endroit un monument aux héros révolutionnaires qui se dresse comme un chicot malheureux. Il faudra longtemps avant de pouvoir le dynamiter parce que Jiang Zemin est devenu chef de l'État. Il faut honorer les gens qui ont donné leur vie pour une belle cause, mais pas en faisant une laideur pareille. Donc on oublie le confluent de la rivière Suzhou et du Huangpu. Et où est-ce qu'on va ailleurs? Eh bien, on va d'abord se promener, déambuler dans les Lilong. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que Shanghai s'est construit sur des terres agricoles, et donc il y avait le chemin qui sont devenus les grandes avenues. Et puis, il y a l'urbanisation a acheté les terrains les uns après les autres par des petits chemins perpendiculaires. Et donc, les Lilong sont ces petits îlots qui ont tous la même taille puisqu'ils étaient avant occupés par une rizière. Et donc là, on trouve ces magnifiques petites villas qui coûtent maintenant extrêmement cher. Mais Shanghai est la première des villes de Chine à avoir réfléchi et sauvé son passé. Pékin l'a fait trop tard. Shanghai l'a réussi dès le début, parce que Shanghai est toujours en avance, bien entendu. Et donc on peut se promener là, et dans ces petites ruelles, il règne une atmosphère villageoise. On retrouve tout le charme des villes chinoises, les vendeurs de cages d'oiseaux, de sièges en rotin, les petits magasins, les gens qui mettent leurs couettes à sécher au soleil, les vendeurs de petites choses à manger sur le trottoir. Et que donc il y a deux Shanghai, celui des tours et des cartes postales et celui de la vie quotidienne, qui a cette chaleur humaine bien caractéristique des villes chinoises. Et puis, si on va un peu plus vers le sud-ouest, il y a deux endroits extraordinaires. Le premier, c'est la gare du Sud. Oh, on dirait, hein, qu'est-ce que ça veut dire visiter une gare? Mais si, les gares dans notre pays sont les cathédrales du XIXe siècle. Dans toutes les villes de France, il y a des gares magnifiques. Et la gare de l'île Flandre est un des chefs-d'œuvre. Eh bien, la gare du Sud est une des cathédrales du XXe siècle en Chine. Elle est totalement ronde. Il est impossible de s'y perdre. C'est extraordinaire. Même quand on n'est pas chinois. Et puis si on pousse un peu plus loin, on va à la pagode Longhua. C'est une vieille pagode bouddhiste qui, dont les premiers bâtiments ont été construits en l'an 1000. Mais surtout, une fois qu'on est allé faire quelques dévotions et planter quelques bâtonnets d'encens, on voit beaucoup de jeunes au moment de leur examen. Après, on va au restaurant végétarien de la pagode Longhua. Alors là, c'est hallucinant. C'est là où on voit le génie chinois dans son pragmatisme parfait. Le bouddhisme respecte la vie. Et donc, les bouddhistes, les croyants, les bouddhistes pieux sont végétariens. Oui, mais les Chinois se sont dit, c'est pas parce qu'on ne va pas tuer des animaux qu'on va manger triste. Et donc, ils ont inventé ce chef-d'œuvre de la cuisine virtuelle. Et le restaurant de la pagode Longhua vous offre un buffet. Il y a plus de 250 mètres de comptoir dans lequel on trouve tout ce que la cuisine chinoise peut produire. Et en plus, la cuisine taïwanaise et la cuisine japonaise. Par exemple, vous avez des sushis magnifiques. Thon, calamar, saumon. Et tout ça, c'est que du gluten. Il n'y a pas un gramme de viande. Et si vous ne le savez pas, vous dites, il est frais ce poisson. Moi, j'ai commencé par un potage à l'aileron de requin. C'est la première fois de ma vie que j'en mangeais. Sauf qu'il n'y avait ni aileron ni requin dedans. Mais c'était délicieux. Et donc, tout l'art du cuisinier chinois, c'est de donner à la nourriture la saveur, la texture, la couleur de la viande. Les plats de poulet glissent comme du poulet. La viande séchée. Vous avez de la viande séchée de porc et de la viande séchée de bœuf, où il n'y a pas un morceau ni de viande, ni de séché, ni de porc, ni de bœuf. C'est extraordinaire. Et tout ça, à volonté, pour même pas 175 yuan. Allons, 20 euros. Vous avez des petites théières avec des soupes de champignons. Et même des machines à expresso, parce que nous autres sommes quand même habitués à prendre un petit café après un repas chinois.
Ça veut dire que c'est quand même les rois de l'illusion.
Non, c'est les rois du raffinement, voyons, comme vous y allez, comme vous êtes méchante. Oh, je ne vais plus vous parler, voyons.
Cela dit, l'illusion est plutôt un compliment. Alors maintenant, pour terminer, on a fait un petit tour dans le vieux Shanghai, en tout cas les Lilong et la pagode, et on passe le pont, on se retrouve à Pudong. Qu'est-ce qu'on fait à Pudong?
Du fric. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à Pudong? Sauf que non, vous pouvez cultiver votre intelligence. Le musée des sciences et des techniques est un chef-d'œuvre. Et puis en passant dans la station de métro qui arrive au musée des sciences et des techniques, vous avez un immense marché couvert où vous pouvez vous faire un costume ou une chemise. Le temps de visiter le musée, pourquoi perdre cette opportunité? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans Shanghai, c'est cette manière de gérer l'immensité de la ville. C'est quand même une ville de 18 millions d'habitants. Et par exemple, quand vous sortez de Shanghai en voiture, vous vous engagez dans une autoroute, comme dans toutes les autoroutes du monde, vous prenez un ticket à l'entrée de l'autoroute. Mais le temps que vous preniez le ticket, il y a une caméra qui flash la plaque de la voiture et la tête du chauffeur. La plaque de la voiture est immédiatement envoyée à l'ordinateur central de la police de Shanghai. Et si par hasard vous avez, par inadvertance, oublié de payer une amende pour stationnement illicite, la barrière ne se lève pas. Mais par contre, un policier vous dit « Vous voulez pas venir vous garer là et vous mettre au clair avec... » Bon, pourquoi pas, ça marche bien. De la même façon, les autoroutes sont gratuites. Les autoroutes surélevées à l'intérieur de la ville sont gratuites, mais elles ne sont autorisées qu'aux voitures qui ont acheté une plaque de Shanghai. Parce que bien sûr, les plaques automobiles coûtent moins cher dans le Zhejiang. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus le droit de rouler sur les autoroutes urbaines, vous êtes obligé de vous taper tous les feux rouges. Et puis pour les plaques, vous savez, à Shanghai, ils procèdent aux enchères aveugle. C'est-à-dire que Si, par exemple, le mois prochain, le gouvernement de la ville décide de vendre 9000 plaques de voitures, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez participer à l'enchère. C'est-à-dire que vous écrivez sur un papier l'argent que vous êtes prêt à payer cette plaque. Et après, on prend les 9000 enchères supérieures. Et comme ça, vous avez ou vous n'avez pas votre plaque, selon ce qu'ont enchéri les autres. Mais cela ne vous permet pas d'avoir juste le permis. Après, il faut acheter une voiture et il faut pour ça qu'elle ait un garage. Et puis, la circulation est extrêmement bien réglée. Par exemple, tous les feux rouges ont une caméra qui se déclenche au moment où le feu passe au rouge. C'est 6 points, la moitié des points de permis si vous brûlez un rouge. Donc on peut quand même traverser tranquillement dans cette ville, sauf si le chauffeur connaît le trajet et sait que ce carrefour-là n'est pas équipé de vidéo. Et donc il y a cette perpétuelle gestion de la foule, gestion de la masse. Je vous en donne un exemple qui va vous montrer à quel point on ne mesure pas cela. J'ai un ami qui a une entreprise à Shanghai et un jour, un de ses employés vient le voir, nous sommes vers le fin novembre, et lui dit « Est-ce que je pourrais avoir un jour de congé ?» Le 14 mars. Ben, le patron lui dit « Oui, bien sûr, évidemment. Mais pourquoi tu veux un jour de congé le 14 mars ?» Et l'autre répond « Parce que ma femme accouche à 14 heures ce jour-là. » L'autre dit « Attends, tu te fous de moi ? On est fin novembre et tu me dis que ta femme va accoucher le 14 mars à 14 heures en plus ?» Ben, il dit, mais pourquoi elle va accoucher le 14 mars ? Ben, parce qu'on a rendez-vous ce jour-là. Et pourquoi elle a rendez-vous ce jour-là ? Ben, parce que dans cet hôpital, il naît 600 bébés par jour. Donc on ne peut pas laisser faire la nature. Donc on est obligé de gérer. Donc les bébés naissent par césarienne, de façon à ce qu'il y ait les garanties d'hygiène et de sécurité et de soins nécessaires. Il y a bien sûr un volant de 10% pour s'il y a des cas qui sont hors normes. Mais donc on est obligé de gérer les naissances de cette façon-là, parce que sinon on serait vite débordé. Sauf que vous savez comme moi qu'il y a une astrologie en Chine, et que donc l'heure de naissance et le jour de naissance n'est pas du tout, comment dire, anodin. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? On peut négocier avec l'hôpital, et il est sûr que si on ajoute une petite enveloppe rouge, on peut trouver des heures plus favorables que d'autres pour la naissance. Et que donc, on est là tout à fait dans cet exemple chinois, à la fois de cette gestion de la foule, cette gestion de la masse, dont nous n'avons absolument aucune idée en Occident, et en même temps les vieilles traditions chinoises, dont on ne mesure pas la continuité actuelle, et qui font que ce pays est différent de tous les autres, parce que il entre dans la modernité à fond la caisse, mais toujours revêtu des robes de soie de sa longue tradition.
Et il entre dans la modernité bien armé. Un conseil pour aborder Shanghai quand on est français ?
Oui. Un conseil peut-être pas, mais un livre qui ouvre un horizon de Shanghai tout à fait méconnu. C'est, enfin, généralement méconnu. C'est un livre écrit par Michel Kahn, qui est en livre de poche, et qui s'appelle « Shanghai, la juive ». Car on sait peu que l'importance des juifs dans l'histoire de Shanghai. D'abord, la moitié de Shanghai a été construite par une famille juive irakienne, les Kadouri, qui avaient quitté Bagdad pour aller en Inde et qui après, au moment où les Anglais ont conquis l'Inde, et qui après ont suivi les Anglais d'Inde à Shanghai. Les Kadouri, les Hardoun également ont eu une présence extrêmement importante à Shanghai. Et puis également, plus près de nous, lorsque en 1937, les nazis se sont dit que c'était stupide d'enfermer les Juifs dans des camps et de les nourrir à rien faire, et que donc ils ont ouvert ces camps, disant aux Juifs qu'ils pouvaient partir à condition d'être spoliés de tous leurs biens. À ce moment-là, il y a eu une immigration massive qui ont pris le train jusqu'à Vladivostok, puis de là le bateau jusqu'à Shanghai, ville où l'on pouvait rentrer sans visa. Et donc il y a eu une très très importante communauté juive, près de 40 000 personnes pendant la guerre, et qui ont été sauvées dans cette ville. Et bien sûr, alors cette communauté est repartie entre la fin de la guerre et l'arrivée des communistes en 1949. Mais ils sont revenus. Et maintenant, il y a une importante communauté juive. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a d'excellents rapports entre les Juifs et les Chinois, partout en Chine, mais surtout à Shanghai, parce que ce que les Chinois apprécient chez les Juifs, et surtout les Shanghaïens, c'est l'intelligence. Quand vous demandez à un Chinois qu'est-ce que ça évoque pour lui le mot « juif », il va vous répondre tout de suite « d'abord celui qui nous a sortis de la misère, Karl Marx ». Ensuite, celui qui est le symbole de l'intelligence au XXe siècle, Einstein. Et le mot « juif » en chinois, « yotai », s'écrit avec un caractère qui était dans l'Antiquité, dans le dictionnaire Urya d'il y a 2500 ans, le nom d'un singe particulièrement attentif. Et donc « yotai », ça veut dire « particulièrement malin comme un singe ». Et d'ailleurs, le singe est un emblème de l'intelligence, Sun Wugong, très important, c'est un des signes du zodiaque, très important dans l'idée chinoise. Et donc, il y a ce respect mutuel entre les Chinois et les Juifs, entre les Shanghaïens et les Juifs, car après tout, ce sont les deux plus vieilles civilisations toujours vivantes à l'heure actuelle.
C'est vrai, voilà une belle conclusion. Cyril Javary, merci.
Merci.